Bonjour à toutes et à tous. On va commencer sans plus attendre pour ne pas prendre trop de retard sur l'horaire prévu et pouvoir partir déjeuner dans les temps. J'ai le plaisir d'introduire la deuxième table ronde de la journée qui est consacrée, qui a pour titre l'identification et la répartition des missions, de la mission handicap au sein des équipes, quelle formule au singulier ou au pluriel. Nous aurons à cette table ronde Catherine Vosgien de la bibliothèque municipale d'Antony, qui est responsable des espaces jeunesse et braille, qui est également référente handicap de la médiathèque d'Antony, donc qui fera part de son parcours, notamment dans la perspective d'une nouvelle médiathèque prochainement. Je passerai ensuite la parole à Samia Khelifi et à Christine Daoulas. Samia Khelifi est responsable de la médiation avec les publics et les emplois étudiants pour la bibliothèque de Sciences Po. Christine Daoulas est responsable de la mission handicap de Sciences Po. Voilà. Et ensuite, nous terminerons avec Guillaume Naudet-Diaz, responsable du bassin de lecture pays du centre-ouest de Bretagne, qui est basé à Plonévé-du-Fou, qui est responsable des publics empêchés pour la bibliothèque du Finistère, qui nous parlera de la structuration de son territoire et de l'exemple de la bibliothèque départementale de la Bretagne. L'idée, bien sûr, est de faire le lien avec la table ronde précédente sur la formalisation des politiques handicap, accessibilité au sein des établissements et comment est-ce que cela peut s'incarner au niveau des référents handicap, au niveau des équipes. Quel est le lien également qui peut se faire avec les équipes de direction et comment ça se traduit concrètement sur le terrain, comment ça se traduit au niveau des missions qui peuvent être remplies par les référents handicap. Je laisse la parole à Olivier Caudron qui va introduire la table ronde au regard du rapport d'inspection qu'il a remis en février dernier. Merci Olivier.
Bien, donc sur ce second volet, donc l'identification. Alors effectivement, notre rapport donc a préconisé l'existence d'un référent handicap dans toutes les bibliothèques, quelle que soit leur taille. Je persiste et je signe, mais je précise quand même notre idée. La plupart des bibliothèques, il s'agira d'une mission parmi d'autres. D'ailleurs, dans le questionnaire que nous avons diffusé, lorsque le pourcentage d'emploi du temps sur cette fonction est précisé, ça va de 2% à 100%. Alors, je n'ai pas calculé 2% ce que ça représente en minutes dans la semaine, vous pourrez le faire. 100%, évidemment, on est dans une grosse bibliothèque, un gros réseau, voilà. Mais il nous paraît important qu'il y ait vraiment une incarnation et que quelqu'un porte cette attention, cette vigilance dans un rôle d'aiguillon et de vigie, plutôt que de dire, bon, tout le monde y pensera. Quelquefois, c'est le meilleur moyen de dire que personne n'y pensera directement. Voilà, que quelqu'un porte cela, ne serait-ce que parce qu'il faut aussi assurer une veille technologique, informationnelle, etc. Enfin, voilà. Il y a aussi pouvoir développer les partenariats. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette fonction nous paraît devoir être identifiée dans toutes les bibliothèques, même de petite taille. Même si dans beaucoup de cas, donc, comme je dis, ça sera dans la fiche de poste une mission parmi d'autres. Donc une fonction à inscrire dans l'organigramme, ce qui est rare d'après les réponses qu'on a reçues au questionnaire, même si un SCD d'université a dit, oh, ben, tiens, à la lecture du questionnaire, tout de suite, on s'est dépêché d'inscrire dans l'organigramme. Voilà, donc il y a déjà eu des effets immédiats. Ça permet de donner une visibilité, un repère, d'officialiser. Parce que certaines bibliothèques disent « Oui, mais nous, c'est une fonction officieuse. Bah, » Pourquoi pas la rendre officielle, que ce soit inscrit et qu'on sache qui fait quoi. Inscrire aussi dans la fiche de poste ou les fiches de poste lorsque plusieurs personnes sont concernées. Dans certains cas, bon, assez rares, il y a même une lettre de mission qui est élaborée qui permet de développer davantage ce qu'on attend de la personne sur cette fonction. C'est aussi une fonction à repérer dans l'organisation de l'établissement d'enseignement supérieur dans sa globalité ou dans la collectivité territoriale. Donc, comme il a déjà été dit, dans l'enseignement supérieur, on a un cadre qui est relativement homogène, avec, donc, comme je disais, chargé de mission, référent, service handicap, schéma directeur du handicap, et souvent donc un réseau de référents handicap dans les différents services de l'université, donc services documentaires inclus. C'est même dans certaines universités, l'université qui a dit au SCD, il nous faut un référent handicap dans le SCD. Voilà, donc il y a vraiment une politique très volontariste. Et alors, on voit que dans certaines universités, la fluidité, l'articulation n'existe pas toujours, mais quand même, dans la plupart des cas, manifestement, il y a vraiment des liens réguliers entre le service, les personnes chargées du handicap au sein de l'université et donc le SCD. Dans certaines collectivités territoriales, on peut trouver aussi une organisation très structurée. Par exemple, la ville de Pau a mis en place un réseau d'ambassadeurs du handicap qui fait que dans chaque direction ou service de la collectivité, bibliothèque incluse, il y a donc un ambassadeur du handicap. Alors, cette identification donc, d'un référent handicap peut prendre différentes formes selon la taille de la bibliothèque, selon le nombre de sites. On en parlait un peu tout à l'heure, le nombre de services. Alors, dans le cas du réseau d'un SCD, qui peut parfois avoir plusieurs dizaines de bibliothèques sur un campus ou sur différents campus dans la ville ou l'agglomération, dans le cadre d'un réseau de bibliothèques municipales ou intercommunales, dans le cadre d'une coordination intercommunale, on va pouvoir trouver des organisations un petit peu plus élaborées avec des réseaux de correspondants. On peut avoir un groupe de travail, une commission, une cellule, donc diverses organisations. Mais dans tous les cas, il y aura bien quand même quelqu'un qui va coordonner, qui va être un référent et qui va donc incarner cette fonction. On constate que les référents exercent souvent, et c'est logique, dans les départements ou les services en charge de l'accueil des publics. Alors, un directeur de bibliothèque municipale disait « Mais le risque d'identifier une personne, c'est que les autres agents peuvent se sentir déresponsabilisés. » Alors, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Hein, et c'est donc désigner une personne pour mieux impliquer tout le monde. Tout le monde est vraiment concerné et c'est ce qui favorisera la permanence et la pérennité de l'action. On a parfois d'ailleurs un vrai service handicap dans la bibliothèque, avec parfois des collections. Bon, j'ai bien connu le cas à Bordeaux, mais c'est le cas aussi à Montpellier et dans d'autres endroits. Donc le référent handicap a un positionnement transversal. Donc il faut que ce soit quelqu'un d'encore plus motivé par la fonction, on est d'accord, hein, puisqu'il faut être très impliqué, il faut un pouvoir de conviction, de ténacité. Il faut par ailleurs quelqu'un qui ait du poids, hein, qu'on écoute dans la bibliothèque, qui sont pris en compte à la fois par la direction de la bibliothèque et par les équipes. Donc ça peut être quelqu'un qui fait partie de l'équipe de direction, ce qui est préférable pour être au courant de toutes les actions et pouvoir, comme on disait, dès le début de l'action, dire il faut penser à l'accessibilité, ou sinon que ce soit que le référent handicap dispose d'un relais auprès de la direction. Il aura des activités très diverses, tournées à la fois vers les agents, vers le public et vers donc vers l'extérieur, hein, l'établissement, la collectivité et tous les partenaires. Alors, parmi ces missions, on y reviendra tout à l'heure, il y a notamment la sensibilisation, la formation et l'information de ses collègues, au moins donc une formation à l'accueil. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est hyper spécialiste, mais c'est quelqu'un qui sait vers qui se tourner. Et nous préconisons l'élaboration d'une fiche de poste type. Ça pourrait être un travail national qui ne serait plus qu'à décliner et adapter éventuellement localement. Pour conclure, on trouve parfois des organisations encore un petit peu plus élaborées avec des prestations d'accueil renforcées avec des agents volontaires au-delà d'un accueil de premier niveau. Par exemple, la Bibliothèque nationale de France a une équipe d'accompagnants volontaires, une quinzaine d'agents qui peuvent accompagner de l'entrée jusqu'à la sortie la personne en situation de handicap qui en éprouverait le besoin. De même, je parlais tout à l'heure des collègues du SCD de l'Université Paris 8, où là, il y a une cellule handicap d'une vingtaine d'agents. Et on y prévoit donc que dans le service public, il y a en permanence une des personnes de cette cellule handicap qui est présente dans la bibliothèque et qui peut être mobilisée pour éviter un accueil sur rendez-vous qui ferait revenir la personne. Voilà, ça permet d'offrir le meilleur accueil tout de suite. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je crois qu'on va avoir des échanges, des présentations riches. Merci.
Donc je vais passer la parole à Catherine Vosgien pour la bibliothèque municipale d'Antony. Merci.
Bonjour et merci donc de m'avoir invité pour cette journée et donc d'avoir invité un représentant d'une médiathèque municipale de ville moyenne puisqu'Antony comporte 63 000 habitants et deux médiathèques. Alors seulement 15 minutes pour vous parler du rôle de référent à l'aune de mon parcours, c'est court. Donc je vais commencer par vous parler de mon parcours, ensuite du rôle de référent tel que je l'ai imaginé et fait, et pour terminer quelques points sur le comment faire. Pour me faire une idée de l'accessibilité en médiathèque, j'ai effectué un mini-sondage auprès des bibliothèques de mon département. J'ai eu 13 réponses, donc beaucoup de choses qui sont faites, des événements, des accueils de scolaires, etc. À mon avis, il manque deux points importants, l'accueil de stagiaires de manière régulière et la formation en intra. Donc, parcours d'une bibliothécaire territoriale lambda à la bibliothécaire référent handicap. Donc je suis responsable espace jeunesse, espace braille, référent handicap, autoproclamé. Et ça a son importance, je vous en parlerai un peu plus tard. Les médiathèques d'Antony possèdent une particularité, elles hébergent en son sein une médiathèque braille, ça fait plus de 45 ans, et nous assurons la double compétence de centre de transcription et de bibliothèque. Nous prêtons gratuitement les livres sur toute la France, donc si vous avez des lecteurs de livres en braille, n'hésitez pas à nous contacter. Dans ce domaine, la mutualisation des ressources est absolument indispensable. Il y a plus de 18 ans, alors que j'étais simplement bibliothécaire jeunesse, le directeur de l'époque m'a demandé de chapeauter cet espace, tenu alors par des bénévoles. Alors comment ça s'est fait ? Je passais dans le couloir, sa porte était ouverte, et là j'ai entendu dire « Ah, j'ai trouvé mon responsable de l'espace braille ». Voilà comment les choses se font aussi. Comme je n'y connaissais pas grand-chose, ni au braille, ni à la malvoyance, j'ai fait des recherches pour comprendre. J'ai fait des journées de formation, des visites dans les salons spécialisés, des visites dans les bibliothèques, des rencontres avec des lecteurs malvoyants, etc. Au cours de ces recherches, j'ai commencé mon premier partenariat non formalisé avec un EM Pro malvoyance et handicap associé. N'osant impliquer les collègues d'autres secteurs, par peur de les embêter ou de surcharger leur emploi du temps, j'ai investi principalement l'équipe jeunesse. Nous sommes 6. Ce partenariat, poursuivi de nombreuses années, nous a fait rencontrer d'autres types de handicaps, notamment cognitifs. Ça a été l'occasion pour moi d'approfondir mes connaissances et d'ouvrir nos portes à d'autres types de handicaps. Donc j'ai fait comme plein de bibliothèques, j'ai fait des temps forts, et notamment une biennale du handicap, commencée il y a environ 18 ans, avec des institutions, notamment pour des expositions, les ateliers d'art de l'hôpital psychiatrique de secteur, l'atelier Janvière notamment, avec des associations, ou des femmes peintres malvoyantes. Bref, ne pas faire simplement parler sur le handicap, mais offrir une place dans la cité, une visibilité, un espace de discussion et côtoyante. On a fait des lectures dans le noir, des dîners dans le noir, des spectacles extraordinaires aussi sur le handicap, et notamment aussi une présentation de films sur la problématique de la sexualité des personnes avec handicap. Au bout de quelques années, j'ai commencé à avoir accumulé un certain nombre de connaissances et de savoirs sur beaucoup de handicaps. Je suis allée visiter l'Institut national des l'Institut national des jeunes aveugles, l'Institut national des jeunes sourds, l'association Valentin Huy. Enfin bref, j'ai fait un gros parcours dans toute la France et sur Paris. J'ai demandé à participer aussi à la commission handicap qui était mise en œuvre à Antony depuis fort longtemps parce que la ville d'Antony est assez investie en termes de handicap. Il y a une dizaine d'années, j'ai senti qu'on avait un déficit dans le domaine de l'inclusion. Cela malgré nos actions éparpillées. J'ai également ressenti une non-visibilité à la fois au sein de la médiathèque, j'étais celle qui s'occupait des personnes avec handicap, et aussi au niveau de la ville. C'est à ce moment-là que je me suis autoproclamée référent handicap, avec quand même l'aval de ma direction. Donc j'ai juste rajouté à ma signature, responsable jeunesse et braille, référent handicap. Mais ma fiche de poste n'a pas été modifiée pour autant, et nommé responsable jeunesse, j'ai encore eu moins de temps pour m'occuper du handicap. Cependant, ce titre de référent s'est révélé utile pour le public et les institutions, souvent très étonnées qu'un référent handicap existe au sein des médiathèques municipales. Et j'étais notamment contactée de plus en plus souvent pour l'accueil de stagiaires. Nous recevons des stagiaires sur de courtes ou de longues durées, mais aussi à l'année, une, deux, trois demi-journées par semaine. L'accueil des stagiaires demande de l'imagination, de la recherche de solutions pratiques, mais c'est un axe indispensable. Nous avons reçu des stagiaires totalement aveugles, dans une bibliothèque, c'est pas facile, des stagiaires totalement sourds, avec aussi un problème de malvoyance, comment faire pour le mettre en accueil du public, comment communiquer avec ce public, le public et lui. En même temps, nous avons réfléchi à l'amélioration de nos collections et de nos matériels. Nous avons mis en place le partenariat avec l'AVH pour la base EOL. Nous avons acheté des lecteurs DESI, nous en avons 8, très demandés, acquis une centaine de livres DESI qui nous permettent notamment de donner les textes des prix littéraires que nous organisons. Ça permet aux personnes malvoyantes de pouvoir participer. Suite à des demandes de parents sur les livres 10, nous avons monté en jeunesse il y a 5 ans un fonds accessible. On a plus de 300 documents. Ce spot est très fréquenté par des lecteurs avec problèmes de lecture et les autres. Parce que quand les parents voient « espace facile à lire », on ne se demande pas si c'est pour les 10 ou pas les 10. On se dit c'est du facile à lire, on y va. Dans la foulée, les collègues des autres espaces et de l'autre médiathèque ont réfléchi sur leur collection et sont en train de finaliser un espace facile à lire adulte et jeunesse. Nous avons également mis en place, pour la nouvelle médiathèque, des ateliers participatifs avec des résidents de la page, des représentants d'un APACH, un foyer d'accueil, pardon, avec des représentants d'associations, etc. Sachant que je partais à la retraite dans 2 ou 3 ans, je me suis inquiétée du devenir de ce poste de référent. Bien sûr, d'autres collègues participent à l'accueil des personnes avec handicap. Mais j'ai bien compris depuis toutes ces années que le rôle de référent était indispensable et qu'il devait survivre à la personne en charge du handicap. On le voit bien dans beaucoup de bibliothèques, il y a une ou deux personnes intéressées par ce travail sur l'accessibilité, qui font de leur mieux, avec de pauvres moyens, en courant dans tous les sens, se sentant à la fois gênées de donner du temps pour des résultats à la marge et de déranger les collègues. La préparation de mon intervention pour cette journée m'a également donné un espace de temps et de réflexion sur nos pratiques et redonné une mise en perspective de ce qui serait souhaitable à court terme. Je n'ai pas encore mis en place tout ce dont je vais vous parler, mais c'est en cours. Je bois un petit coup. Une approche systémique doit être entreprise au niveau des médiathèques, avec en ligne de mire la finalité de notre système. Le référent, son but, donner une équité d'accessibilité au public avec handicap. Et aller beaucoup plus loin que les lois encore très minimalistes dans le domaine du handicap. Son rôle, il donne un axe fort. Oui, la médiathèque a fait de l'accessibilité un axe fort. Le référent handicap, c'est le chef d'orchestre. Il n'est donc pas seul. Bon, on a parlé tout à l'heure des problèmes des petites bibliothèques qui, elles, doivent se faire aider par les BDP notamment. Donc il n'est pas seul, ni en amont, en aval, ni en latéral. Il assure les fonctions de tout chef de projet. Il pilote, coordonne, assure la cohérence des projets. Il cherche et développe des partenariats. Il apporte son expertise aux collègues et assure la cohérence de leurs actions. Il anime ou aide à la mise en place d'actions de formation, de communication, de sensibilisation auprès des collègues et du public. Il assure l'accompagnement personnalisé et le suivi individuel des collègues, des stagiaires en situation de handicap. Il connaît les ressources de la ville et les personnes ressources dans le domaine du handicap. Il recherche des financements. Nous, par exemple, quand j'ai monté le fonds 10 il y a 5 ans, on a eu une subvention du CNL assez importante. Il documente ses actions, ses projets, toutes choses que je ne fais pas encore, dans le but de partage, mais également de pérennisation. Et il interagit avec les référents des autres services de la mairie, par exemple avec le service portage des repas à domicile, ou l'ergonome s'il y en a un. Pour toutes ces questions, on doit se poser des questions. Dans quel but? Quelle finalité? Est-ce que les moyens développés et les actions mises en place vont dans ce sens? Comment mutualiser sur mon territoire, avec d'autres médiathèques, les livres en braille par exemple, les pôles sourds, malvoyants? Et comme quelqu'un l'a déjà dit tout à l'heure, ne pas se noyer dans une fausse compassion inutile, mais juste essayer de comprendre. Surtout ne pas s'isoler et tout porter sur son dos par peur d'embêter les collègues. Savoir se questionner, questionner nos pratiques, nos habitudes. Alors comment j'ai fait, moi, quand je me suis mise à réunir une commission avec des collègues? Ben, j'ai dressé une petite carte mentale sur le public empêché que l'on désirait toucher et qu'on pourra ensuite mettre en relation avec l'audit du territoire et la situation actuelle des actions en direction de ce public. L'audit du territoire. Quelles sont les institutions qui travaillent dans la sphère du handicap dans ma ville? IME, foyer, hôpital psy de secteur, CMP, association. Quelles sont mes ressources au niveau municipal? CCAS, commission handicap. Au niveau des scolaires, les classes ULIS, les EM Pro, les CPPS, les élèves en inclusion, les écoles spécialisées et les demandes déjà reçues de particuliers ou d'institutions. Ensuite, j'ai fait une carte heuristique sur l'état des lieux des actions en faveur de l'accessibilité, sans oublier les outils que nous avons pour le public lambda. Par exemple, les liseuses. On n'y pense pas, mais c'est magnifique comme outil. On peut agrandir les caractères, on peut déjustifier, on peut modifier l'interlignage. C'est hyper léger, même si j'ai de l'arthrose dans les doigts, je peux quand même le porter. Ça, les DVD sous-titrés, les DVD en audio-description, toutes ces collections et tous ces matériels qu'on a déjà dans nos collections ordinaires. Cette carte est vouée à évoluer au cours du temps et elle représente l'état de nos actions et par là même notre implication. Donc le matériel spécifique, qu'est-ce que j'ai? Liseuse, lecteur Daisy, plateforme Helios, DVD audio-description, etc. Qu'est-ce que j'ai comme partenaires nationaux? AVH par exemple, ou municipal. Qu'est-ce que je fais pour la formation pour le personnel? À mon avis, les formations en extérieur, c'est bien, c'est un bon début, mais les formations en intra, c'est nettement meilleur. Et en tout cas, il faut obliger tout le personnel à y assister. Lorsque je fais des formations dans ma bibliothèque, la chef de service, ma directrice, elle convoque tout l'ensemble de l'établissement et nous sommes obligés d'y assister. Médiation, action, portage, animation, maison de retraite, réception de groupe, accueil de stagiaires. Sans oublier la communication générale et ciblée. Quand j'ai monté le fonds 10, nous avons écrit à tous les orthophonistes de la région, tous les psychologues, tous les ophtalmologistes, etc. Ensuite, on forme, si ce n'est pas déjà formé, un groupe, une commission avec d'autres collègues intéressés, en invitant le référent handicap de la mairie et les membres de la direction pour assurer la légitimité de nos actions. Nous sommes une dizaine, Anthony. Et puis après, on fait une petite déambulation groupée dans la bibliothèque. Parce qu'on a un ascenseur, on a des portes qui s'ouvrent automatiquement, on est de plein pied, on a une rampe d'accès. Ouais, mais alors quand je suis allée regarder nos collections, grand format, enfin, grand caractère, alors la dernière étagère, elle était au ras du sol, et l'autre, elle était à 1,80 m. C'est cool, mais comment on fait pour y accéder à ces documents? Donc on a entrepris dans ma bibliothèque de remonter systématiquement toutes les dernières étagères, les plus basses, pour qu'elles soient au moins à 40 cm du sol. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait de tous nos livres? Ben, faut réfléchir. Collection tournante ou autre, je ne sais pas, à vous de voir. Il faut se faire connaître auprès de sa mairie, auprès des autres services, et contacter les écoles spécialisées, les maisons, les résidences, bref, tout ce qui apparaissait sur la liste prénommée. S'il y a des forces vives, on propose des accueils et animations. Exemple avec les hôpitaux psy, les foyers d'APAGE, les CPPS, les EM Pro. Nous avons fait un travail avec l'hôpital psychiatrique de secteur, notamment en les aidant à construire leur bibliothèque intra-hôpital. Nous avons aussi monté des ateliers de poésie mixte avec le public lambda et des personnes résidentes à l'hôpital psychiatrique. Quel matériel puis-je acquérir aussi en plus de celui pour le public lambda? En réfléchissant vraiment aux besoins. Pendant un moment, on voulait acquérir un téléagrandisseur. Je me suis renseignée auprès de Marseille, auprès d'autres bibliothèques qui en avaient. Et franchement, pour une bibliothèque municipale de la taille d'Anthony, ça nous paraissait pas relevant. Vaut mieux qu'on mette notre argent dans des lecteurs Daisy, par exemple. En plus, le problème de ces gros matériels, et ça je l'ai vu dans une bibliothèque à Paris, On les a, mais on ne peut pas les upgrader parce qu'après, on n'a plus de sous. Donc, on ferme la salle. Et puis, un point important dont on a beaucoup tous parlé, c'est la formation pour le personnel. Alors, il y a les formations CNFPT ou les autres. Mais moi, je dis que la meilleure des formations, c'est par les stagiaires que nous accueillons. Même avec des mises en situation qu'on nous proposait lors de ces journées, moi, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans la tête et dans le corps des personnes avec handicap. Comment côtoyer à minima ce qu'un autiste peut ressentir? Comment un sourd de naissance traite l'information? Et à quelles informations il accède? Comment expliquer un fonctionnement, un process à une personne avec un handicap cognitif? Comment répondre à une personne psychotique qui surréagit à la médiathèque, qui parle et qui indispose le public lambda? Bref, toutes ces questions importantes dans mon rapport avec les autres, comment fais-je pour avoir un début de réponse et en fournir à mes collègues? Donc pour moi, la meilleure manière, c'est l'accueil des stagiaires de tout type de handicap. Mais on ne les reçoit pas n'importe comment. Parce que vous avez noté que tous nos collègues ne sont pas au même niveau de compréhension ou d'information que nous. Beaucoup sont indisposés, ne savent pas comment parler aux personnes avec handicap, quel que soit leur handicap. Donc à chaque fois, j'ai fait des réunions. Si on accueillait un handicap avec trisomie, je demandais à des éducateurs de venir, ou des parents, ou les personnes elles-mêmes, ou le personnel de l'établissement. C'est gratuit, c'est très instructif. Quand nous avons eu des problèmes avec des personnes psychotiques dans la médiathèque, j'ai demandé à l'hôpital de secteur de venir, et une assistante sociale et un cadre de santé est venu nous faire une information. On ne peut pas dire une formation, mais au moins une information qui nous a aidés. On peut également demander pour tous ces stagiaires des coachs. Et ça, c'est très aidant aussi. On peut regarder leur travail et ça nous libère aussi du temps. Alors, des difficultés, bien sûr, pour le référent. Comment réussir à impliquer ses collègues? Comment faire face à des problèmes structurels du bâtiment? L'organisation des collections, l'argent? Le travail supplémentaire est toujours à la marge. Trouver du temps pour se former. Et surtout, veiller constamment au grignotage de notre projet initial, Covid ou pas Covid. Le référent est donc indispensable. Il doit avoir une fiche de poste avec temps dédié, ce que je n'ai pas. L'appui de sa direction et de sa mairie, ce que j'ai. Travailler avec la direction pour établir une charte permet de dégager du temps, de l'argent et surtout d'avoir la légitimité. Nous n'en avons pas encore à Antony, mais le projet est dans les tuyaux, notamment en vue de la construction de notre nouvelle médiathèque pour laquelle nous aimerions obtenir le label tourisme et handicap. En fait, développer l'accessibilité, c'est un choix de politique. On prend du temps pour déstructurer la D-Way, pour la restructurer. On peut prendre du temps aussi pour réfléchir à l'accessibilité. Bref, vous êtes là, vous vous intéressez à l'accessibilité, alors poussez vos directions, vos élus à œuvrer dans cette voie. C'est un parcours pas toujours simple, mais ces dernières presque 20 années m'ont énormément apporté au niveau personnel et professionnel. C'est une voie toujours renouvelée d'avoir ce sentiment d'être à l'écoute de l'autre et de pouvoir quelque peu aider. C'est en fait la partie de mon travail, je pense, qui me manquera le plus lors de ma retraite. Merci à vous.
Merci beaucoup Catherine, de votre témoignage très riche. C'est ce qui illustre parfaitement en fait ce qui a été cité en introduction, c'est-à-dire l'implication personnelle très forte parfois des agents qui permet d'impulser un certain nombre de choses au sein des établissements. Et l'idée, ce serait évidemment d'arriver à un modèle intégré, comme l'a cité pour l'Association des bibliothécaires de France, Hélène Brochard. Je vais passer la parole à Samia Khalifi et à Christine Daoulas pour la bibliothèque de Sciences Po, donc qui vont montrer qu'un accompagnement fort des étudiants est possible. Voilà, tout au long, sur le long terme. Merci à vous deux.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christine Daoulas, je suis responsable de la mission handicap au sein de Sciences Po Paris. Et donc, nous avons décidé avec ma collègue Samia Khalifi de venir vous présenter la politique handicap de Sciences Po et les actions qui sont réalisées au niveau de la bibliothèque ensemble, justement pour illustrer ce travail collaboratif entre la mission handicap et les référents handicap. et pour effectivement répondre à vos questions si vous en avez. Quelques mots donc pour démarrer sur la politique handicap de Sciences Po et sur ma mission. Donc je suis en charge de définir et déployer la politique handicap au sein de l'institution. Et il s'agit de définir une politique handicap pour l'ensemble des publics de Sciences Po, qui sont les salariés, bien sûr, les étudiants et les enseignants. Donc il y a vraiment une volonté d'avoir une approche globale en matière de handicap et que cette approche soit complètement intégrée dans la politique de l'institution. C'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs années, puisque le sujet du handicap et de l'égalité des chances a été intégré et défini comme un axe prioritaire à partir de 2008, donc j'ai envie de dire très peu de temps après la loi sur le handicap de 2005. Je vous ai noté quelques grandes dates à retenir. Donc le lancement du programme Sciences Po Accessible. Je mentionne le lancement de ce programme parce que c'est à partir de cette... j'ai envie de dire ces actions que Sciences Po a vraiment pu développer une politique handicap ambitieuse, et notamment à destination des étudiants, puisqu'il s'agit d'un programme qui a été mené en partenariat avec un certain nombre d'entreprises partenaires et qui nous permet de financer vraiment, j'ai envie de dire, de manière très, très poussée, l'ensemble des aménagements destinés aux étudiants en situation de handicap. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est véritablement au travers de ce programme que nous avons pu, année après année, accueillir de plus en plus d'étudiants en situation de handicap et d'aller de plus en plus loin également en matière d'accompagnement et d'aménagement. Donc une implication et un engagement fort de la part de la direction de Sciences Po, avec notamment la signature de la lettre d'engagement Sciences Po Accessible en 2013, qui là aussi a vraiment marqué l'engagement global en matière d'égalité des chances. Au niveau de l'organisation de la mission handicap et du fonctionnement, donc je m'occupe de la politique handicap de Sciences Po en collaboration bien sûr avec un certain nombre de référents handicap. Donc il y a une personne qui est en charge de suivre plus spécifiquement les salariés en situation de handicap au sein de la direction des ressources humaines. Une chargée de mission handicap qui est chargée de suivre au quotidien les étudiants en situation de handicap et de déployer les aménagements. Et ensuite, un ensemble de référents handicap dans des services clés de Sciences Po. Donc Samia en fait partie, donc au niveau de la bibliothèque. Il y a également un référent au niveau des admissions, de l'équipe de Sciences Po Carrière, dans les différentes écoles, dans les différents campus. Donc il y a un maillage vraiment de référents handicap, j'ai envie de dire assez large, ce qui permet vraiment de nous assurer que l'ensemble du sujet sera bien intégré et pris en compte dans l'ensemble des directions et que le sujet sera bien déployé. Au niveau, quelques mots en termes, au niveau des aménagements concernant les étudiants en situation de handicap. Bon, bien sûr, nous avons donc mis en place trois types d'aides, des aides techniques, des aides humaines et des aides organisationnelles. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'avec les différents référents handicap, on travaille sur ces différents axes pour voir ce qui est possible de mettre en place. Donc voici quelques exemples de référents handicap du maillage donc, dont je parlais. Quelques informations sur nos étudiants en situation de handicap. Sur cette diapo, vous pouvez voir qu'il y a eu une évolution. On a multiplié par 3 les effectifs d'étudiants en situation de handicap depuis 2014. Et on a... Alors, il y a eu une... le nombre a stagné entre 2019 et 2020, mais depuis la rentrée dernière, nous sommes actuellement, nous accueillons 370 étudiants en situation de handicap au sein de l'institution. Avec des typologies de handicap, j'ai envie de dire qui sont très variées et qui représentent finalement toutes les typologies qu'on peut retrouver dans la population. Et juste une précision sur la catégorie autre. En fait, nous demandons à nos étudiants s'ils acceptent que nous communiquions sur la typologie de handicap. Et un certain nombre d'étudiants sont libres de nous répondre non et donc sont représentés dans la catégorie autre. Et il faut savoir que dans cette catégorie, on peut retrouver des personnes qui ont des maladies invalidantes, des handicaps psychiques ou qui sont autistes. En termes d'organisation, au niveau de l'organisation des interactions entre la mission handicap et les référents handicap, donc on organise des réunions régulières pour partager justement sur les situations, sur aussi les axes de progrès, sur les actions qu'on peut mener. On travaille aussi ensemble justement sur l'identification des personnels ou en tout cas des équipes qui ont besoin d'être sensibilisées ou formées. Et il y a donc un programme de formation et de sensibilisation qui est établi pour l'année. Samia aura l'occasion d'en reparler, mais en fonction des situations, on peut être aussi amené à rechercher ensemble des situations pour des solutions pour des situations individuelles plus complexes. Et peut-être un petit, alors juste avant de laisser la parole à Samia, un petit mot en ce qui concerne justement la définition d'une nouvelle politique handicap, parce que c'est mon actualité actuellement. Donc je travaille avec l'ensemble des parties prenantes internes. L'idée, c'est vraiment d'intégrer le plus possible tous les acteurs de l'école et de l'institution, donc les salariés, les étudiants, qui nous ont fait savoir qu'ils étaient également très intéressés d'être sensibilisés et de participer à cette politique. Et ça, c'est un point que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment comment les impliquer pour qu'ils soient vraiment force de proposition et qu'on travaille ensuite également ensemble sur le déploiement de la politique. Et également avec les enseignants et les salariés. Donc ce qui ressort, c'est vraiment un souhait de la part de ces différentes parties prenantes d'être acteurs de la politique handicap. Donc ça me semble intéressant de le souligner. Et le deuxième point, c'est que quand finalement, aujourd'hui, de travailler sur une politique handicap, on peut aussi la positionner à un autre niveau, et ce qui peut donner un nouvel élan à cette dynamique et à cette politique, c'est de l'associer au développement durable, parce que le handicap, finalement, fait partie de la dimension sociale du développement durable et est intégré dans les objectifs de développement durable. Donc c'est, une formidable occasion aussi de rattacher ce sujet à des sujets plus larges et d'actualité de développement durable. Voilà, donc je passe la parole à Samia pour vous parler des actions au niveau de la bibliothèque.
Merci à Christine et merci à tous. Donc voilà, je suis Samia Khelifi, responsable des emplois étudiants à la bibliothèque, et ça a son importance par rapport au sujet du handicap. Je vais vous en parler. Alors après les salles de cours, les salles de bibliothèque, nous sommes aujourd'hui à Sciences Po sur trois bâtiments, 199 boulevard Saint-Germain, Bib de recherche, 27 rue Saint-Guillaume, c'est le bâtiment historique de la bibliothèque, et le 30. Des expériences du confinement, on retire que les espaces dédiés et adaptés doivent être sur tous les bâtiments. Pourquoi ? Parce qu'en période où vous ouvrez une partie des espaces, du coup, les étudiants doivent trouver ces espaces dédiés sur un des trois bâtiments. C'est une expérience qu'on a dû mettre en pratique pendant le confinement. Aujourd'hui, on a des espaces adaptés donc sur une cabine du rez-de-chaussée du 27, avec des tables ajustables, du mobilier adapté, des chaises ergonomiques, des ordinateurs équipés de synthèse vocale, agrandisseurs d'images, Donc, et au 30, le même dispositif avec en plus une imprimante braille, des imprimantes dans chaque cabine. Pourquoi ? Parce qu'en période de fréquentation importante, on préfère que les étudiants puissent imprimer à l'intérieur des salles et qu'ils puissent travailler aussi en groupe si nécessaire. Les services de la bibliothèque, c'est d'abord accompagner les étudiants durant tout leur parcours de la scolarité, du début à la fin. C'est l'endroit le plus fréquenté après les salles de cours. Ils doivent pouvoir étudier sereinement, avoir accès aux collections, avoir l'aide humaine en direct ou indirecte pour les accompagner sur les recherches documentaires ou sur les visites de bibliothèque personnalisées. Renseigner, ça peut se faire de façon sur rendez-vous ou à tout moment de la journée, sur un tête-à-tête, leur expliquer un peu, étudier leurs besoins, parce que vous savez que sur un même handicap, les besoins ne sont pas les mêmes d'un étudiant à l'autre. Donc on pose les choses et on leur propose un certain nombre de dispositifs. On voit avec eux si c'est adapté ou pas et on fait évoluer les besoins si nécessaire. On organise des rendez-vous aussi avec les bibliothécaires. Donc, si c'est un étudiant, par exemple, qui est en master droit, on va organiser un rendez-vous avec une bibliothécaire spécialisée sur les bases de données droit ou sur, en tout cas, les documents dans son domaine. On les aide à commander les ouvrages en magasin puisqu'une grosse partie du fonds à la bibliothèque est en accès indirect. Donc, si nécessaire, il y a une intervention humaine pour les accompagner. Enregistrer les prêts, si nécessaire, faire des copies, des scans. On renouvelle les prêts à la demande. Donc là-dessus, on facilite les prêts et les retours sur tous les bâtiments. Il y a aussi, on a l'agrément niveau 1 depuis 2013 et on l'a renouvelé, je crois, en 2019, quand la loi a évolué. Donc on fait aussi de l'austérisation et de la mise en accessibilité des documents pour les étudiants du campus de Paris et de tous les campus. C'est un système, tous les services dédiés aux étudiants en situation de handicap sont proposés aussi sur les différents campus en région. Poitiers, Dijon, Nancy, Menton, Le Havre. Voilà. Pourquoi c'est important en fait, j'ai la chance de travailler avec une quarantaine d'étudiants vacataires à la bibliothèque dans le parcours de formation dédié aux vacataires, donc qui travaillent de 7h45 à 9h30 et le soir jusqu'à 23h, pour avoir un service 100% accessible et surtout l'amplitude horaire la plus large possible. Les vacataires, depuis au moins 7 ans, sont formés à la sensibilisation au handicap. C'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, l'étudiant en situation de handicap doit pouvoir s'offrir ce service tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Donc c'est pour ça que la formation qui est offerte aux salariés aujourd'hui a été d'abord proposée. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça, puisque comme j'étais leur responsable, du coup, je l'ai imposé à mes étudiants vacataires. Et cette année, on l'a étalé aux étudiants vacataires des campus en région. Nous venons de former une centaine de vacataires aux actions de sensibilisation. Ce parcours de formation, en fait, c'est un rappel à la loi 2005, bien sûr, donc le cadre réglementaire. La sensibilisation aux différents handicaps, moteurs, visuels, auditifs, cognitifs, psychiques, et leur expliquer un peu comment on rend un support accessible et la nécessité de rendre les supports PowerPoint, Word, PDF, etc. accessibles. En tant qu'étudiants, c'est doublement important pour nous parce qu'ils sont à la fois, ils vont côtoyer des collègues pendant leur cours, ils sont en master ou en collège. Du coup, ils font passer l'information. Ils sont à l'accueil, ils font passer l'information. Et en tant que citoyens, ils font passer l'information. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Pour les lecteurs extérieurs, c'est exactement le même service. La carte de bibliothèque est gratuite pour l'étudiant, le salarié, ou quelle que soit la personne qui a besoin de consulter nos collections, plus l'accompagnateur. Donc, pour ça, il y a des documents officiels à présenter et il y a une carte établie pour un an renouvelable de façon illimitée. Alors, en fait, à la bibliothèque, nous avons un certain nombre d'équipements informatiques, mobiliers, mis à la disposition des étudiants. On a, par exemple, la machine à lire Lexia, que vous voyez, qui peut lire en français, en anglais et en espagnol. Alors, ça permet d'avoir une version synthèse vocale du document. Ça permet aux étudiants ou aux enseignants qui ont besoin de se poser, de leur faciliter l'accès à la lecture. Ce matériel, il va être déployé maintenant sur tous les campus en région. Antérieurement, on faisait passer le matériel par un système de prêt. On vise l'autonomie maximum sur tous les campus en région. Donc voilà, on va équiper nos campus en région de toutes ces machines, nouvelle version. Une imprimante braille très peu utilisée aujourd'hui, mais elle peut être nécessaire en cas de besoin. Un agrandisseur d'image portable. On prête du matériel pour les étudiants sur une durée de 6 mois, renouvelable de façon illimitée pendant toute leur scolarité. Et ce qu'on voit à droite, c'est un stylo amplificateur de son. Donc, c'est comme un stylo, en fait, vous le posez. Ça permet de diffuser le son, d'émettre le son de façon maximale avec un émetteur qu'on met autour du cou. Ça facilite un peu, pendant une réunion, pendant un cours, en fait, ça favorise l'audition des étudiants. On a aussi des salles à 100% accessibles, notamment l'amphi Boutmy, qui a une capacité de... Boutmy ? Très grande, en tout cas, et qui est complètement accessible. En plus de ces services, c'est d'abord accéder au bâtiment. Donc, quand l'ascenseur ne descend pas, quand il y a quelques marches pour accéder à l'ascenseur, donc on active la puce de la carte d'étudiant pour lui permettre une accessibilité 100% du bâti. Des rendez-vous personnalisés avec les bibliothécaires à tout moment de l'année, quand il y a des sujets de recherche compliqués, en début d'année ou tout au long de l'année. On augmente le crédit d'impression gratuit pour les étudiants qui ont besoin d'imprimer davantage pour des caractères grossissants, par exemple, des étudiants malvoyants notamment. Donc on a des interlocuteurs dédiés qui nous facilitent ce service. Et on finance l'abonnement à des bases de données labellisées comme Vocal Press. On les installe soit sur le téléphone de l'étudiant, soit sur l'ordinateur au choix. Et pour un contact facilité, alors au début, on était sur un contact personnalisé. Donc, moi, je suis référente handicap, mais je travaille aussi avec un groupe handicap à la bibliothèque dédiée. Donc, ça permet à l'étudiant qui a une question tout au long de l'année, à n'importe quel moment de la semaine, de pouvoir nous contacter. Et la personne qui est derrière, enfin, c'est un certain nombre de personnes. Et du coup, on assure le suivi des questions et le contact avec les étudiants par le biais de cette boîte mail. Voilà un peu pour le dispositif. Alors, pour nous, l'accessibilité, c'est d'abord la qualité de l'accueil à la bibliothèque. Aujourd'hui, qui pourrait se passer d'une porte automatique quand vous avez chargé avec les ouvrages ? Les rampes d'accès, la même chose. Je dirais que l'ascenseur qui descend au rez-de-chaussée bas quand vous êtes chargé profite à tout le monde. La table rehaussable, les collègues l'utilisent quand, par exemple, ils ont un problème de bras ou un handicap physique aussi. Voilà, donc l'accessibilité, ce n'est pas juste pour les personnes en situation de handicap. C'est un confort et c'est une amélioration de la qualité de l'accueil à tout le moment de l'année et pour tout le monde. Donc, je pense que c'est l'argument qu'il faut mettre en place pour dire que... Et puis, une accessibilité réussie, c'est une accessibilité qui est intégrée dans tous les projets. Donc, tout à l'heure, on parlait du numérique. Quand vous créez un site web, si vous le pensez avant, c'est moins cher que si vous le pensez après. Et ça vaut pour tous les projets qu'on peut mettre en place en bibliothèque, sur un support de formation, un parcours de visite, gestion des collections. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit être transverse et qui doit intégrer tous les projets, de mon point de vue en tout cas. Je vous remercie. Je n'ai pas l'habitude de parler en public, mais j'espère que ça a été compréhensible.
Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, on voit que le travail d'accueil des étudiants en situation de handicap est un travail long cours hein, qui se fait vraiment sur la durée. Sans attendre, je passe la parole à Guillaume Nonédiaz.
Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Je voudrais remercier d'abord la BPI de m'inviter pour parler des missions publiques empêchées au sein du département du Finistère. Rapidement, la bibliothèque départementale du Finistère, nos missions, c'est la desserte documentaire, la formation, l'action culturelle et l'ingénierie territoriale. C'est peu ou prou les missions des bibliothèques départementales en France et c'est nos missions classiques, si je puis dire, avec 222 bibliothèques accompagnées par 4 antennes. Donc ça vous donne déjà un cadre d'action et une particularité qui est que l'antenne de Plenévé du Fou, dont je suis le responsable, est une antenne ouverte au tout public. À ces missions qui sont classiques, se sont rajoutées du coup à partir de 2016 des missions politiques en lien avec un plan de développement de la lecture publique et donc des missions votées par les élus dont la mission s'engageait auprès des publics empêchés. Donc vous noterez déjà dès maintenant qu'en fait on n'a pas véritablement une mission handicap, mais on a une mission public empêchée qui est un peu plus large et qui inclut par exemple la question des personnes en situation de précarité sociale. Un premier pas vers l'identification de ce qui pourrait être une mission publique empêchée chez nous, c'est d'abord de partir de l'historique, puisque notre historique de travail en fait a conditionné notre façon de travailler sur cet axe-là, et de façon un peu paradoxale, à la fois c'est une mission qu'on porte depuis longtemps, et à la fois qui s'est amplifiée et qui s'est diversifiée depuis les dernières années. On a eu en 2004 un premier plan de développement de la lecture publique qui portait en fait sur l'ingénierie et l'action culturelle et qui visait du coup à créer les quatre antennes que je vous ai présentées et à territorialiser nos actions. On n'avait donc pas véritablement à ce moment-là de mission actée politiquement envers les publics empêchés, si ce n'est la mise en place du dispositif Ado de mots qui a été un dispositif d'atelier d'écriture porté auprès de lycées techniques et élargi ensuite. Donc le premier poste en fait qui est apparu chez nous et qui portait des missions publiques empêchées, ça a été un poste d'action culturelle sur le dispositif Ado de mots. En 2012-2014, on a signé un contrat territoire lecture sur un renforcement des collections publiques empêchées, sur le renforcement de ce dispositif-là et sur une offre de formation incluant constamment des formations publiques empêchées. Donc vous voyez, au fur et à mesure de l'animation et de l'action culturelle uniquement, on est venu à se diversifier, à inclure la formation et à inclure les collections dans notre réflexion. En 2015, il y a eu l'ouverture de l'antenne de Plenévé du Fou qui est ouverte au tout public. Et là, c'est pareil, ça a marqué un tournant puisque cette antenne a été positionnée pour être l'antenne qui travaillerait spécifiquement sur ces missions. C'était lié à une analyse du terrain qui montrait que le pays du centre-ouest Bretagne était le pays en Finistère avec le plus fort taux d'illettrisme et les plus grandes difficultés d'accès à la culture. Donc forcément, d'avoir une antenne sur ce territoire-là et une antenne ouverte au tout public qui travaillait sur les missions publiques empêchées, ça avait du sens. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu aussi plus de fiches de poste qui ont intégré la dimension publique empêchée et il y a eu la signature d'un second contrat territoire lecture pour développer le dispositif facile à lire. En 2016, on a eu du coup un second plan de développement de la lecture publique que je vous ai présenté tout à l'heure et dont l'un des axes principaux est s'engager auprès des publics empêchés. En 2018 et 2019, en lien avec ce second plan de développement de la lecture publique, on a retravaillé en interne pour créer des postes dédiés aux axes prioritaires. En réalité, on s'était bien rendu compte qu'on avait eu des orientations politiques et qu'on avait des envies de travailler, mais qu'il fallait structurer ça concrètement sur le terrain par des fiches de postes dédiées et aussi par du temps de travail. Et qu'on avait du mal, en fait, pris par nos missions principales, premières de bibliothèque départementale, à dégager du temps de travail véritablement efficient sur ces thématiques-là. Donc il a fallu retravailler en interne pour qu'il y ait des postes cibles avec un vrai temps de travail dédié. Donc on a mis en place deux équivalents temps plein à 50% sur les missions publiques empêchées. On a aussi mis en place un groupe de travail participatif en interne sur les actions publiques empêchées. En 2020, on a obtenu une subvention CNL pour l'acquisition de documents adaptés. On a mis en place des malles publiques empêchées. On a mis en place un programme d'animation à l'antenne de Plenévé du Fou. Alors, régulièrement, en fait, dans l'ouverture au tout public, on avait des animations et on a acté à ce moment-là que à chaque programme d'animation qui soit dédié 100% au handicap ou qu'il ne soit pas dédié au handicap, il y aurait toujours au moins une action dédiée à un public en situation de handicap, ouverte à un public en situation de handicap. On a obtenu l'habilitation exception handicap, on a été lauréat de l'appel à projet des IE compagnie et on a obtenu le label bibliothèque numérique de référence. Et en 2021, on a mis en place une journée professionnelle acteurs et outils du handicap en Finistère, une formation en interne et en externe grâce à l'appel à projet des IE compagnie. On continue les acquisitions et le travail de médiation sur les malles publics empêchés. On va mettre en place un questionnaire auprès des bibliothèques partenaires pour connaître précisément les services qu'elles ont aujourd'hui auprès des publics empêchés et leurs besoins et comment nous, on peut les accompagner mieux sur ces thématiques-là. Alors cet historique qui est un peu long, il me permet moi après de dresser des constats et de redéfinir du coup comment est-ce qu'on met en place des missions handicap et quel est le cadre en fait, quelles sont les formules qui s'appliquent pour nous. Le premier cadre, on en a parlé un peu avant, ça fait le lien avec la première partie de la journée, c'est la nécessité d'un document qui exprime une volonté politique. Nous, véritablement, les missions publique empêchée, en fait, elles sont arrivées, bien qu'il y ait eu des envies de l'équipe, d'en haut. Il y a eu un plan de développement de la lecture publique, il y a eu un plan voté par des élus, il y a eu des fiches de travail, des fiches actions, en fait, très précises, notamment, par exemple, la mise en place d'une journée professionnelle outils et acteurs du handicap en Finistère, qui vient dire, en fait, comment on doit travailler. Ça, c'est aussi important d'avoir cet outil-là, parce que lorsqu'il y a eu des difficultés, par rapport à la Covid, les collègues en ont parlé tout à l'heure, lorsqu'il y a des difficultés internes, parce que vous le savez, dans nos équipes, malheureusement, il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui sont absents, etc. Ça nous permet aussi de dire, cette mission-là, elle reste importante. Même si elle est mise en suspens, on la reprend. Vous avez voté pour, en tant qu'élu, vous avez on a un devoir, en fait, moral, tous, de continuer à exercer cette mission. Donc ça, c'est très, très important. Ce qui est important aussi, c'est que ce document, il s'appuie bien sur une connaissance des enjeux du territoire et qu'il permette une synergie entre les besoins et les actions mises en place. Le cadre, l'identification de la mission, donc il va venir d'en haut, il va venir du politique, il va venir aussi des partenaires que vous allez solliciter, que ce soit les partenaires institutionnels. Lorsque vous demandez une subvention CNL, par exemple, vous allez avoir une obligation de mettre en place des animations. Vous ne pouvez pas avoir une subvention CNL uniquement sur le volet collection. Donc forcément, sur votre projet public empêché, si vous pensez à un projet ou projet handicap, si vous pensez à un projet juste pour acquérir des collections et que vous ne faites pas le lien avec la médiation, le CNL va vous dire... ça ne les intéresse pas, enfin qu'ils ne vont pas vous subventionner, et donc vous êtes obligé de vous adapter à leurs besoins. Idem pour l'appel à projet des IE Compagnie, aujourd'hui ça veut dire une formation dans votre projet, savoir quelles sont les attentes en fait, des partenaires que vous sollicitez, vous aide à mettre en place du coup la mission et à identifier les besoins, enfin identifier le cadre dans lequel vous allez mettre en place la mission handicap. Ça va aussi être les partenaires du terrain. C'est-à-dire que nous, on travaille sur plusieurs échelons. Vous l'aurez compris, c'est ça qui est un peu particulier. À l'échelon juste de l'ouverture au tout public de l'antenne de Plonévé du Fou, moi, j'ai fait une cartographie de tous les partenaires qui pouvaient exister à proximité sur le territoire et qui, donc, qu'on pouvait inviter dans l'antenne et avec lesquels on pouvait travailler et sur lesquels on pouvait mettre en place des partenariats. Et il s'avère qu'il n'y a pas d'association en Centre-Bretagne où il n'y a pas de structure qui prenne en charge des personnes en situation de déficience auditive. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on travaille sur cet axe-là, mais ça veut dire pour le coup aussi que ce n'est pas forcément notre axe principal, sachant que dans la commune d'à côté, on a un foyer d'insertion pour des personnes en situation de polyhandicap. Voilà. Donc forcément, on s'adapte aussi un peu aux réalités du terrain et à essayer de construire une offre qui nous permette de faire venir les gens qui habitent à proximité et qui sont là. Aujourd'hui, l'offre de services, du coup, elle se décline sur l'ensemble de nos actions. Elle se décline sur l'action culturelle, le dispositif à Donmo, des animations à Plonévé du Fou, une offre d'outils adaptés pour nos bibliothèques. Elle se décline dans le cadre du dispositif facile à lire, donc des collections faciles à lire qui sont dans toutes les antennes et prêtables aux bibliothèques finistériennes, des valises et meubles faciles à lire pour créer des espaces dans et hors les bibliothèques. Des collections adaptées. Des formations sur nos programmes de formation, systématiquement des formations sur le handicap, sur l'accueil, sur les publics empêchés et sur une politique partenariale au sens large, travail avec les différents partenaires du territoire, intégration, les partenaires aussi du département et autres, MDPH, etc. Bien entendu, je ne l'ai pas remis là, mais ça impacte aussi beaucoup l'ingénierie territoriale, donc le travail des référents de secteur en bibliothèque départementale. Et notamment, je rejoins tout à fait ce que disait ma collègue d'Anthony sur le fait que les publics empêchés, les missions handicap portées par des bibliothèques, c'est des choix politiques. Pour nous, on est en train de travailler à ce que ce soit inclus en fait dans nos conventions avec les communes. Donc dans les conventions qui vont être signées entre la bibliothèque départementale et les communes, que soit mis dedans l'exception handicap et ce qu'il en... Enfin, que dans le cadre de nous, du prêt de documents adaptés ou de prêt d'outils d'action culturelle, que soit mis le cadre de l'exception handicap et que soit bien dit que, en fait, c'est pas juste la bibliothèque qui porte. C'est un choix politique. Une commune qui travaille sur l'accessibilité, c'est pas juste la bibliothèque, il faut que ce soit un choix politique et que les élus en aient bien conscience. Malheureusement, c'est pas toujours simple, comme on l'a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, du coup, identifié dans des missions structurellement, on a 4 postes dédiés majoritairement au public empêché. Un poste sur le dispositif à Donmo, c'est là où vous voyez que, par exemple, l'historique est pas anodin, c'est-à-dire qu'on garde quand même une part importante de notre temps de travail sur les publics empêchés, sur un dispositif d'atelier d'écriture. 2 postes à 50% de coordinateurs de missions publics empêchés et un poste de responsable public empêché qui est mon poste. Ceci étant dit, vous allez avoir une difficulté quand vous allez identifier l'émission dans votre antenne, qui est remontée d'ailleurs par moment, qui va être la difficulté d'avoir une identification d'émission. Et si vous êtes que 4 agents à travailler sur l'émission publique empêchée et que vos collègues ne vous suivent pas, ça va être compliqué, vous allez ramer un peu. Donc en fait, l'un des enjeux aussi de mon poste et de nos postes, c'est de mettre en place une culture commune. Parce que, en fait, par rapport à la présentation que je vous ai montrée tout à l'heure, l'émission public empêché, l'émission handicap, elle touche tous les agents. Des collègues du pôle comptable qui se posent la question de la facturation du lecteur reader, enfin du lecteur Victor Daisy, Victor Reader, pardon. Je vais y arriver. Des collègues adjoints du patrimoine qui s'occupent en fait du retour des outils d'action culturelle et qui vont devoir passer en fait différents outils et différentes malles et qui vont devoir vérifier un certain nombre de choses. Des collègues référents de secteur à qui on va poser des questions parfois un peu pointues sur comment on fait quand on a un projet de bibliothèque ou comment on fait quand on veut mettre une signalétique adaptée, etc. Au poste de responsables qui eux doivent mettre en place une culture commune et qui eux doivent essayer de faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Donc la mise en place d'une culture commune, elle a été très importante. Elle se décline par un groupe de travail participatif. Donc en fait, indépendamment des fiches de poste qui sont citées plus haut sur les projets transversaux et sur des projets, on a un groupe de travail qui inclut des agents de chaque antenne et qui inclut un nombre important d'agents. On a des formations, la mise en place de la journée professionnelle ou deux journées professionnelles, mais la formation en interne aussi de l'appel à projet dédié compagnie. En règle générale, des formations en interne et en externe. Et des réunions spécifiques où on va axer sur cette thématique-là. On a fait il y a peu un comité de sectorisation, donc c'est une réunion avec tous les référents de secteur sur les enjeux de la sectorisation et les changements qu'il peut y avoir, les nouveaux dispositifs d'aide. En fait, c'est un temps d'échange entre référents de secteur sur comment est-ce qu'on accompagne au mieux les bibliothèques de notre territoire qu'on a ciblé là sur les publics empêchés. Et donc pour finir, quelles sont les limites ou quelles sont les difficultés à mettre en place une mission handicap au sein des équipes et comment est-ce qu'on organise ça? Ce qui a été compliqué chez nous, et ça rejoint un peu la question que vous vouliez poser tout à l'heure, je ne sais plus qui dans la salle, c'est que ça a été un axe transversal qui a été porté historiquement plutôt par une antenne et qui au départ était plutôt territorialisé par l'antenne de Plonévé-du-Fou. Même si c'est plus le cas aujourd'hui et que bien entendu c'est un axe de travail pour l'ensemble de la bibliothèque départementale du Finistère, il a fallu faire ce travail-là de, à partir du particulier, réélargir et en reparler aux collègues et voilà. Donc il y a cette difficulté-là, il aurait été plus simple de construire dès le départ un poste de référent par exemple par antenne ou en tout cas d'avoir la vision globale plutôt que de partir d'une vision particulière qu'on essaye ensuite d'élargir, il vaut mieux partir de la vision globale. Un questionnement parfois sur les frontières des différentes missions transversales. On met en place des malles d'action culturelle pour nos partenaires, pour nos bibliothèques partenaires. On a dedans des tablettes avec des applications adaptées qui téléchargent et valorisent les applications adaptées. Est-ce que c'est le collègue référent public empêché? Est-ce que c'est le collègue référent numérique? Est-ce que c'est le collègue référent chargé d'action culturelle? Bon, c'est pas très compliqué, mais il faut juste trancher parfois et redire bien quelles sont les missions ou comment est-ce qu'on travaille simple. Et puis, on est obligé d'avoir du coup une redéfinition constante des fiches de poste et une clarification concrète des missions à effectuer. Le risque parfois aussi, c'est d'avoir des objectifs globaux, des objectifs qui peuvent être politiques ou qui peuvent être managériaux. Donc, on va vers le handicap, on va vers l'accessibilité, on va vers des ressources, très bien. Il faut aussi qu'il puisse y avoir toujours le pendant fiche action, le pendant concret de comment ça se traduit sur le terrain. Sinon, vous pouvez toujours lancer des grandes phrases et lancer des grands projets. Si les collègues ne sont pas formés, si on ne sait pas qui fait quoi et si voilà, soit c'est fait, mais c'est pas très bien fait parce que les collègues sont pas compétents et sont pas à l'aise de le faire, soit au contraire c'est même pas fait parce que du coup il n'y a pas les forces vives ou autres. Donc toujours s'appliquer, avoir des fiches actions, en tout cas avoir une méthodologie et à concrètement voilà, sur le terrain comment on fait et ça veut dire quoi? Accueillir les personnes en situation de handicap en bibliothèque, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que c'est repenser nos espaces d'accueil? Est-ce que c'est la mise en place d'une signalétique adaptée qui s'en occupe, qui contacte les partenaires qui regardent, etc. etc., etc. Je vous remercie, j'ai fini. Et je finirai aussi là-dessus, sur le fait que c'est très important d'identifier et d'avoir plusieurs personnes de l'équipe formées. Les retours de la journée professionnelle, au-delà des outils qu'on pouvait mettre en place, c'était pour toutes les associations partenaires, le contact humain, très important en bibliothèque sur l'accueil. Et donc malheureusement, il faut qu'on soit tous en capacité d'accueillir et d'avoir ce contact humain envers toutes les personnes qui peuvent pousser nos portes. Et donc il faut qu'on soit tous compétents.
Merci beaucoup Guillaume pour cette intervention encore une fois très riche. On prend quelques minutes pour des questions, pas beaucoup, mais.
Oui, c'est pour le collègue du Finistère. Comment se positionne la bibliothèque du Finistère sur la question de l'articulation entre les médiathèques, bibliothèques d'une part et le scolaire de l'autre? Sur la question du handicap, bien sûr.
Sur le partenariat que peuvent avoir les bibliothèques et les écoles. Pour l'instant, justement, vous l'aurez noté dans notre plan de développement de la lecture publique, la question des collèges n'est pas un de nos axes de travail. prioritaire. Donc, ponctuellement, on peut aider à la mise en place de partenariats sur le territoire ou accompagner les bibliothèques, mais ce n'est pas un travail qu'on met en place directement. Ceci étant dit, c'est une difficulté, je trouve, qu'on retrouve assez souvent. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la formalisation et les plans de développement PCSS, c'est très important. C'est que je trouve aussi, moi, à titre personnel, qu'on demande toujours beaucoup aux bibliothèques. Sur tous les sens, quand j'étais étudiant et qu'on lisait la presse professionnelle, j'avais un peu l'impression qu'il fallait tout faire pour tout, lutter contre la fracture numérique, lutter pour l'inclusion, enfin, œuvrer pour l'inclusion de tous, avoir des collections pour tous, faire venir les adolescents en bibliothèque. Enfin, on a énormément de travail et c'est très bien, mais du coup, c'est aussi important, je pense, de cibler et prioriser. Et malheureusement, prioriser, ça veut aussi parfois dire faire moins sur d'autres sujets.
Je ne veux pas focaliser la question sur la capacité pour des petites bibliothèques rurales à avoir un référent handicap, mais je redis que je ne suis pas complètement convaincu par ce point soulevé par le rapport de l'inspection. Donc je me tourne vers les représentants des bibliothèques départementales, du Finistère, des Landes, du Val d'Oise, de Biblio-Savoie qui sont dans la salle. Comment... vous paraît-il réaliste de préconiser la présence de référents handicap dans des petites bibliothèques rurales? On a vu avec le cas de Saint-Brieuc que l'intercommunalité était une réponse efficace et qu'en se regroupant, on pouvait, sur des petites bibliothèques de l'agglo de Saint-Brieuc, avoir un référent, des référents handicap au niveau de l'interco. Corinne Saunier nous a dit que dans les Landes, il y avait plein de petites bibliothèques rurales qui ne participaient pas à des intercos, qui étaient seules, qui étaient des bibliothèques communales. Comment les bibliothèques départementales voient les choses par rapport à ces petites bibliothèques rurales et la formalisation d'une politique de handicap dans ces petites bibliothèques rurales? Moi, c'est un vrai problème que j'ai et je n'ai pas la solution. Si cette journée m'aide à avoir la solution, ça sera très positif. Bien excuse d'insister sur ce point. Les grandes bibliothèques, il n'y a pas de problème. Elles ont les compétences, elles ont les personnels. Sur les petites bibliothèques, et comme vous le dites, on demande beaucoup aux bibliothèques. C'est des petites bibliothèques avec un professionnel, 4 bénévoles. On fait comment ?
Je pense qu'il y a deux réponses. Alors, le financier, le subvention, l'État l'a rappelé. Au sein du département du Finistère, là, on est en train d'essayer d'étudier pour mettre en place une subvention pour le premier poste, en fait, la mise en place de premier poste dans toutes les communes. Ça, c'est une réponse. Voilà, c'est pas contre le bénévolat parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent très bien. Et on est obligé d'avoir du bénévole en bibliothèque. Il y a des choses formidables qui sont et des bénévoles qui sont formidables. Mais on se rend aussi bien compte de la limite du bénévolat et du fait que le bénévolat, c'est aussi parfois la liberté de faire et de ne pas faire. Donc les subventions en politique ordinaire, sur l'investissement, enfin sur la mise en place, sur les postes, sur, voilà, c'est une première réponse. C'est aussi une première réponse parce que, c'est une réponse qui doit être portée par contre politiquement et qui peut être difficile à mettre en place partout. Tous les départements aujourd'hui n'ont pas de système de subvention et ça dépend de la volonté politique qui en émane. Une deuxième réponse, mais c'est surtout pour moi et je laisserai les collègues éventuellement rebondir, c'est la mise en réseau. Mais que ce soit sur les publics empêchés, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur le rayonnement d'une structure, que ce soit cette problématique de force vive en bibliothèque et de petites structures, c'est la mise en réseau. Et donc, de toute façon, l'État et les départements, enfin en tout cas nous, notre département, y vont, puisque de plus en plus ces 6 subventions sont de toute façon fléchées réseau, intercommunalité. Et moi, je crois quand même véritablement que c'est l'une des solutions pour justement élever sur cet item-là. Si on n'a pas de mise en réseau et qu'on continue d'avoir des structures ouvertes 4 heures par semaine avec quelques bénévoles un peu vaillants qui ne sont pas forcément épaulés par leur municipalité, effectivement, la question du handicap, elle n'est absolument pas prioritaire, malheureusement, voire même pas abordée, quoi.
Concrètement, dans vos conventions que vous signez avec les municipalités, est-ce que vous allez imposer la présence d'un référent handicap dans ces bibliothèques pour conventionner ?
Concrètement, on n'est pas allé jusque-là.
Merci.
Alors, je vais compléter en essayant de le faire rapidement. L'autre option, c'est aussi de se dire que ce n'est pas une question. Il faut un interlocuteur, au même titre que aujourd'hui ne se pose plus la question, on a parlé des ressources numériques, les ressources, l'accès aux ressources numériques et l'accompagnement à l'accès aux ressources numériques aujourd'hui ne pose plus de questions. Et de même qu'il y a quelques années, aujourd'hui, vous ne vous posez pas la question de savoir qui achète les polars dans les petites bibliothèques. Eh bien, il faut que l'accès à l'ensemble des œuvres soit possible de la même façon. Et bien sûr, nous procédons par étapes. Mais je pense qu'il faut que ce point de départ soit non négociable. Il va être d'autant plus nécessaire que chaque bibliothèque, et donc y compris celles qui sont restées communales, par exemple, vont devoir travailler à leur registre d'accessibilité. On n'a pas parlé de ce point-là pour l'instant dans la journée, mais il me semble capital. On est, nous, au niveau réseau du registre d'accessibilité dans les petites bibliothèques, mais il va falloir qu'on y travaille. Donc, pour que ce registre aille au-delà de nouveau de la question du bâti, il va bien falloir un interlocuteur qui soit en capacité de le mettre à jour, de faire le lien avec les élus. Donc même s'il est bénévole, il va nous falloir un interlocuteur. Et pour cette mission, comme pour toutes les autres, eh bien dans les départementales, la logique, c'est de se dire, nous avons des interlocuteurs locaux, mais bien sûr, nous les accompagnons par l'expertise départementale. Donc ça vaut pour le polar et il faut que ça vaille pour le handicap.
Je suis vraiment désolée pour les dernières questions. Vous pourrez peut-être les poser en off ou alors via le Facebook. D'accord. Donc vous êtes d'accord? Non. Ah. Rapidement, très rapidement. Parce qu'on est
vraiment très... Un bibliothèque départementale de la Somme, Sabrine Dumont-Fellows. Je pense qu'il faut aussi ajouter un axe de professionnalisation. La sensibilisation, justement, à toutes ces questions passe normalement par la formation de base. Ça, c'est le premier point, mais ça passe aussi par la formation de nos élus. Je pense qu'il faut se rapprocher de la commission handicap de l'ADF pour justement sensibiliser les élus à cette question. Voilà.